Après une absence de pratiquement tout l'été, on vous annonce le retour du podcast, et ce, pour de bon. Donc, dans ce podcast-là, on fait un retour sur notre saison. De mon côté, la saison de guidage de A à Z. Et puis, Raph avait des beaux projets sur la table avec Shore, Caudal et Neptune aussi. Chacun de notre côté, on s'en va en voyage. Donc, on vous parle de ça et on a pris un peu de temps pour rire de Benoît Farcy. Parce que, ben, c'est le fun, rire. Hein, Ben? Bon podcast! Donc, Raph, après quoi? 5 mois d'absence, on est de retour?
Ouais, il y avait même du monde, je pense, qui s'impatientait sur les réseaux sociaux qu'on revienne. Fait qu'on est là. Écoute, on vous a pas oublié. C'est juste qu'on a eu un été qui était hyper chargé. Je pense que de ton côté, Luc, ça a passé super vite.
Ah, c'était complètement fou. Tu sais, tantôt, j'ai dit 5 mois d'absence. C'est pas tout à fait 5 mois parce qu'on avait des préenregistrés. Mais ça fait 5 mois que nous... aujourd'hui, vous allez voir, c'est... une réunion en même temps. Vraiment, on va raconter notre été. Puis j'ai tellement pas parlé à Raph de l'été qu'on va tout faire ça en même temps.
Ça doit faire 5 mois.
<s'est pas> ouais, c'est ça. On va faire un résumé de 5 mois. Un été, pour moi, qui a été absolument achalandé, le fun. Il y avait tout le temps de quoi. Là. Une saison de guidage qui a été exceptionnelle, qui a été au-delà de toutes mes attentes.
T'étais toujours avec Force Gilly?
Ouais, j'étais à Force Gilly encore. Puis quand je suis arrivé là-bas, moi, j'ai déménagé parce que là, je déménageais complètement. C'était déménagement complet de Sherbrooke jusqu'en Gaspésie. Présentement, j'habite à New Carlisle après la saison. Puis donc, c'était le déménagement. En même temps que je déménageais, on préparait la pourvoirie. Puis quand ça a parti, là, ça partait pour 20 jours en ligne. Donc, wow. À partir de là, je ne les ai jamais vus passer. Là, le reste, là, puis tout ce que je voyais passer, c'était une journée pour réparer le canot ou dormir. Mais c'était hot. Là. Tout ce que je pouvais espérer... est arrivé. En premier, il y a eu beaucoup de saumon. Ça donne déjà une grosse chance. Ça ne le cachera pas, pogner du saumon quand il y a beaucoup de saumon, c'est plus facile d'en pogner que quand il n'y en a pas beaucoup.
Comment ça a été les conditions d'eau pendant l'été?
Les conditions d'eau, ça a été... on a quand même eu peur là, au début de la saison. Là. Crime, le mois de juin, c'était à canicule, faisait chaud, il n'y avait pas d'eau. On voyait l'eau qui a baissé vraiment vite. Par contre, le saumon est au rendez-vous. Donc... Puis à un moment donné, ça s'est mis à baisser. C'est mis à baisser en juillet. J'ai pas mes notes, j'aurais dû ouvrir mes notes à côté. Ça s'est mis à baisser en juillet. Puis là, on s'est dit, bon, quelle sorte d'été qu'on va avoir? Sachant que l'année passée, on a fini une saison là, avec un mois d'août assez bas, puis un mois de septembre à 7 mètres cubes.
Ouais.
Puis finalement, la rivière s'est quand même maintenue à un niveau que je vais dire bas, mais raisonnable pour juillet. Sauf que, tu sais, j'ai pas de misère avec de l'eau qui vient relativement basse quand elle reste froide. Puis quand le saumon reste preneur.
C'est un des avantages de la Bonaventure, à mon avis. L'eau peut être basse, mais elle reste quand même froide, étant donné toutes les sources qu'elle a dans les montagnes, les chic-chocs.
Bien, c'est ça. T'sais, juillet, l'eau était froide, un petit peu... Bien, c'est sûr que pour un guide, l'eau est souvent trop basse à notre goût. Là.
tout le temps trop basse.
Ouais, tout le temps trop basse, quasiment, mais l'eau est restée froide. Puis le saumon, tu sais, à un moment donné, on était comme à du 12 mètres cubes. Puis on continuait d'avoir un très bon taux de succès. Puis les saumons qui partaient dans une eau froide, moi, j'étais comme, bon, si ça reste de même, on va faire une saison. Là. Puis finalement, le mois d'août, on l'a toffé. J'ai eu peur en août, là. Dans le sens où moi, c'était décidé qu'à 20 degrés, je cancellais des journées.
Okay.
Je veux plus, c'est trop, le taux d'oxygène dans l'eau diminue trop. Puis je veux pas, tu sais, le saumon, t'as pas le choix de remettre les grands saumons à l'eau. Puis en fait... t'en remets le saumon à l'eau tout court, là, finalement.
Puis, en tant que guide, là, c'est quoi que tu préfères? Guider en eau basse? Pour la, si on enlève le succès de la pêche, là, mais pour quelqu'un qui prend tes services, là, c'est-tu plus facile pour toi d'enseigner à pêcher en eau basse ou à pêcher en eau haute?
Ah, c'est plus facile en eau basse. Là. Niveau facilité, là.
Okay.
Je te dis pas que je préfère l'eau basse, mais c'est plus facile en eau basse. L'eau basse, le saumon est plus concentré. Souvent, l'eau basse, ça arrive aussi à un temps de la saison où on va être plus avancé dans la saison. Donc, des saumons qui sont moins en déplacement, qui sont plus stationnés pour une longue période de temps. Donc, ça fait en sorte que si je suis tous les jours sur la rivière, là, il vient des 2-3 semaines de suite que les saumons sont en même place, je leur donne des noms. Là. C'est tout d'avance où ils sont. Donc, c'est plus facile. Par contre, au niveau pour un guide de l'eau claire, tout ce qui est eau haute, c'est de la grosse chasse, là.
Mm.
Puis, tu sais, je te dirais que l'eau haute, c'est là qu'on a des challenges entre les guides, un challenge qui est très amical, mais dans le sens où, on passe en canot, on est les debout de nos canots, on est les yeux partout. Je crois qu'un des meilleurs conseils qui m'a été donné là, pour la, au niveau du guidage, ça a été tu vas trouver des saumons partout dans la rivière.
Qui des sont places preneurs, que tu... souvent aussi.
Ouais, c'est ça. Fait que des saumons, tu fais comme il y en a un là, je n'ai jamais vu un là, mais il ne faut pas que tu le manques. C'est peut-être celui-là que tu vas faire ta journée dessus. Mais ça devient non seulement plus excitant pour un guide, mais ça devient aussi comment dire, plus épuisant. Là. Dans le sens où tu es tout le temps aux aguets, puis dépendamment des débits d'eau, par exemple, lorsque l'eau est venue vraiment haute en début septembre, là, on a eu un coup d'eau extraordinaire, là, l'eau qui est montée à 150 quelques mètres cubes. Là, quand tu poles ton canot, là, tu poles sur le break. Là.
Ah oui.
Alors, là, c'est exigeant parce que tu peux pas te laisser descendre la rivière tout bonnement, là, tu vas beaucoup trop vite. Fait que là, c'est comme un autre game. En même temps, où est-ce que les saumons vont être à 150 quelques mètres cubes?
C'est complètement différent, c'est ça.
Oui, puis tu sais, cette année, là, 156 mètres cubes, un genre de 4 septembre, j'ai parlé même avec des vieux guides de sa rivière, il n'y a personne qui avait connu ça. Il avait déjà connu la rivière à 150, mais pas le 4 septembre. Fait que là, on avait un comportement de début septembre avec des saumons qui étaient un peu éparpillés. Puis, sérieusement, j'ai mal dormi 2-3 jours, j'ai fait comme, oh, OK, ils vont être où? Puis finalement, ça a super bien été. D'ailleurs, c'était quand même cool. Là. Il y a eu à peu près zéro pêcheur le lendemain de le gros cru d'eau à 150 mètres cubes. Puis ma blonde est allée pêcher avec Martin Gravel de la Fauvoirie. Puis quand elle est arrivée au camping Première S, ils ont fait comme « Ah, il y a eu une inscription à sa rivière, puis vous avez pris un saumon. » Elle a pris son premier grand saumon à vie à 156 mètres cubes.
Ah ouais.
Il était tout seul. Dans, en tout cas, peut-être pas toute la rivière, mais dans les secteurs D où il était tout seul. Le gars au camping Lazec, il croyait pas.
Le combat, ça devait être le fun avec le courant qu'il y avait dans la rivière.
Ouais, vraiment. Mais elle, celui qui était son premier, elle a comme pas réalisé. Pour elle, c'était normal de prendre des saumons à 150 mètres cubes. J'étais comme, non, tu comprends pas, c'est vraiment hot, là. Donc, j'en reviens sur l'eau basse, par exemple. J'aime beaucoup l'eau basse. Je trouve ça le fun. J'aime beaucoup pêcher en sèche. J'aime beaucoup pêcher avec la plus petite mouche du monde.
OK.
Pour moi, l'eau basse, c'est tant que j'adore pêcher puis j'adore guider.
C'est quoi petit pour toi?
16, genre.
Oh, OK, cool.
14 ou 16, là. Ça dépend de... On a descendu jusqu'à 16. Le problème de 16, c'est que c'est le fun de les piquer, mais des fois, là, ils se rendent jamais au net, là. Pas jamais, là, mais... Faut vraiment que je sois piqué à la bonne place, là. Sinon, tu dis, oh, on l'a perdu. Ouais, il y avait juste pas d'hameçon sur la mouche, là. Donc, mais en même temps, c'est un défi, puis on transformait ça en défi avec les clients aussi.
OK.
Tu sais, c'est comme, tu sais, ils voient la face. On va-tu vraiment pêcher avec ça? Oui, oui. Puis là, ça marche, saumon, tout le monde est comme...
Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Le monde ne peut pas s'imaginer qu'un saumon de 12 livres va attaquer une mouche numéro 16.
Avant de le faire moi-même, j'y croyais pas, mais ça a marché souvent. Tu sais, puis quand tu fais une journée au saumon, même si tu as pêché qu'une mouche numéro 14 ou 16, puis tu l'as perdu, tu vois, c'est pas grave, là. Dans le sens où c'est le fun, les landés, mais si t'es là pendant 2 minutes, ils ont fait 3-4 sauts, puis ils se décrochent... On passe au prochain, puis ça va bien aller.
Mais c'est ça, un bon guide. Tu t'ajustes selon les conditions, puis ça montre que tu as de l'expérience là-dedans là, en disant ça.
Bien, ça a paru aussi cette année. Tu sais, c'était ma deuxième saison. J'étais arrivé, mon canot était pas mal plus près que l'année passée. Mm-hmm. Puis la saison, là, ça a commencé tôt. Là,
t'as pas crashé un pick-up dans la rivière?
Non, j'ai pas mis de pick-up dans la rivière cette année. Là, c'est ça, cette année, avec Fast Gully, j'étais à mon compte, donc c'était plus le pick-up de Fast Gully. Donc là, cette année, il fallait pas que je mette le pick-up dans la rivière, parce que c'était le mien.
Salutations à Martin Gravel.
Salut Martin. Salut Stéphane. Donc, c'est ça. Fait que pas de pick-up dans la rivière cette année. C'est ça. On a eu un mois, puis tu sais, je reviens encore septembre, là, quand il y a eu de gros coups d'eau, là, c'est devenu le paradis des guides, là, parce que les saumons étaient... Puis les saumons se sont tenus dans les entrefosses.
OK.
Genre, ce qui a été payant en septembre pendant le gros coup d'eau, ça a été les entrefosses. Il y avait très peu de fosses accessibles à pied dans le secteur public qui étaient comme payantes.
Oui, ça aide.
Ouais, puis ça aide à vendre des journées aussi. Là, les gens, ils ont fait quoi? Ils nous ont engagés. Tu sais, c'est quand même... on s'est pas plaint. Il n'y a pas un guide qui s'est plaint de ce coup d'eau-là. Parce que s'il y en a un, donnez-moi son numéro, moi, je l'appelais.
Il doit prendre un canot.
Ouais, c'est ça, il doit prendre un canot. Mais... Fait qu'on est retombé sur le tas du canot. On est retombé sur les nouveaux défis. Puis, ce qui est cool aussi d'avoir un coup d'eau en pleine saison comme ça, t'sais, au niveau du taux de succès, je suis pas prêt à vous dire que j'ai vu une énorme augmentation avec le coup d'eau, de mon côté. il y a quand même la courbe qui est restée quand même assez similaire. Mais j'ai vu, tu sais, les gros saumons qui sont tout le temps dans le gros trou profond, là, que tu n'es jamais capable de pogner, puis qui est là depuis le début de la saison. Là,
ils sont actifs.
Ben là, ils se sont ramassés dans les têtes de fosse, ils se sont ramassés dans les pieds de fosse, puis là, j'ai vu la taille des saumons augmenter.
OK. C'est
ça, c'est intéressant.
Ben oui.
T'sais, si tu veux, comme, on en pogne autant, mais au lieu de pogner un saumon de huilé, on pogne des 15, 18, 20. T'sais, ça a été. Puis on aime tout ça, là, pogner des gros saumons. Là.
Puis écoute, Eric, pas Eric, mais. Luc.
C'est moi, c'est Luc, ouais.
C'est toi. Ta nouvelle vie de Gaspésien, comment tu vis ça?
Ben là, c'est ça que j'ai expliqué à ma blonde cette semaine. Moi, je viens de déménager. Dans le sens où l'année passée, je suis parti de ma saison de guidage. Dans ma saison de guidage, là, j'étais une autre personne. C'est comme, c'est le guidage, puis c'est les poissons, puis c'est ça. Mais ouais. That's it. Okay. Après ça, c'est tout ce que j'ai dans la tête. Puis quand j'ai du temps, ben, je fais des réservations, je fais des affaires de même. Là, ça fait peut-être... Ouais, ça fait comme 3 semaines que j'ai déménagé. Je suis allé 2 semaines à la chasse. Là. Fait que ça fait peut-être 1 semaine que je suis vraiment déménagé.
Je vais t'en poser cette question-là dans 1 mois, finalement.
Ouais, c'est ça. Ben, je vais m'y faire, là, c'est sûr. J'adore le spot. Toute ma vie va bien. C'est juste que... Puis la transition s'est faite entre passer l'été dans une roulotte. Là, t'arrives dans une maison.
Ouais.
Non seulement c'est grand... C'est un niveau de luxe que j'apprécie, mais que dans ma tête, je suis comme, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Moi, j'avais une roulotte, puis ma vie allait très bien. Mm-hmm. Donc, il y a une réadaptation sociale que toute personne qui vient de passer 4 mois dans le bois doit faire. Puis ça prend 1 semaine ou 2, là, puis c'est réglé. Là. On est reparti. On se retrouve une job en plomberie dans pas long. Là.
Ah, c'est cool, ça. Je suis content pour toi, sérieusement. T'as l'air heureux, puis ça paraît.
Ah, nice. Effectivement, je le suis. De ton côté, toi, t'as fait quoi?
Oh là là! Moi, ça a été c'est des beaux défis ces temps-ci. Mais un peu fatigué, mais c'est tellement des belles choses qui sont en train de m'arriver présentement. Comme tout le monde le sait, je travaille chez Shore. Mais j'ai quand même gardé sur le silence, en tout cas au podcast du moins, là, mais je suis rendu un des nouveaux propriétaires de la compagnie Les Mouches Neptune, que plusieurs personnes connaissent. Donc, on a ramassé cette compagnie-là en février l'année passée. Puis, on savait un peu dans quoi qu'on s'embarquait. Là. On avait beaucoup d'améliorations, beaucoup de projets qu'on voulait mettre en place pour cette compagnie-là. Fait que cette restructuration-là puis l'amélioration de la compagnie nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. C'est difficile d'imaginer. Il faut qu'on soit dedans pour le savoir. Mais probablement, quand j'ai acheté la compagnie, je m'imaginais qu'il allait avoir beaucoup d'ouvrages, mais il y a encore des défis supplémentaires qui se sont rajoutés. Mais ça va tellement bien. La réponse des clients est super. On a des beaux projets. L'amélioration de la qualité, ça va super bien. La relation qu'on a avec notre manufacture aussi au Kenya, ça va très, très bien. Fait qu'on met beaucoup d'énergie, mais écoute, ça nous revient, puis c'est super positif ce qui est arrivé. Évidemment, j'ai été à la pêche aussi. On pourrait
deux
y revenir.
Fois.
Ouais, deux fois. Non, plus que deux fois. T'sais, j'ai comme deux voyages que je peux souligner là, qui ont vraiment été particuliers. Dans les deux cas, c'était pour des tournages pour la série Coast to Coast là, de Shore Fishing qui va sortir après les fêtes.
Coast to Coast, dans le fond, il y en avait déjà une saison de fête.
Ouais, fait qu'on a décidé, après mûre réflexion, de faire une deuxième saison. Plus local, en fait. Là, on était en Ontario, puis on a tourné au Québec. Donc, on a fait un épisode sur la rivière Sainte-Marguerite. Le monde pourrait penser qu'on a été pêcher le saumon, mais non, on a été pêcher la truite de mer. Puis on pourra en reparler après, ça a été vraiment malade. Puis aussi, on revient tout juste de l'Ontario, on a été pêcher le steelhead. Fait que ça a été vraiment deux voyages là, que j'ai trouvé riches en apprentissage, là, puis qu'on pourra en rejaser tantôt, comme je disais. Mais, puis évidemment, ben, je suis papa. Fait que tu mélanges tout ça avec l'entreprise Shore Caudal, mon rôle de père. Fait que ça fait, sérieusement, là, ça fait beaucoup, beaucoup, mais c'est vraiment tout
ben,
du positif.
J'en doute pas, parce que, tu sais, dans tous tes projets, que ce soit Neptune, t'es Shore, t'es vice-président, je me trompe-tu?
Oui.
Vice-président, Caudal, copropriétaire avec Carl Phil.
Ouais.
T'as tous des rôles à responsabilité. Ouais. Donc, tu sais, c'est comme quand il y a le problème, ben, c'est toi que j'appelle.
Je pense qu'on apprend. Sérieusement, c'est une année pour apprendre à gérer tout ça, tu sais, à assimiler tout ça sans que ça devienne trop lourd pour la tête, là, parce que des fois, ça peut être des situations un peu stressantes ou ce que tu as un peu plus de pression que d'autres personnes. Mais sérieusement, je suis vraiment content de la façon que j'assimile tout ça, puis ça va bien. Là, fait que...
ouais, c'est quand même cool là, que c'est ça dans tes projets. C'est quand même c'est des belles années pour le monde de la pêche à la mouche en ce moment. Là.
Il faut le prendre. C'est ça que j'arrête pas de dire. Là, il faut le prendre tandis que ça passe. Je pense que ça va durer encore quelques années. La nouvelle clientèle qu'on a, je pense qu'elle n'est pas perdue non plus. Elle va probablement rester. On va peut-être en perdre une partie. Éventuellement.
Je crois que c'est toutes des modes, là, dans le sens où tout est un cycle, mais quand tu popularises quelque chose, éventuellement, la vague va descendre, mais on va en garder dans la vague.
Ben, puis l'autre affaire, c'est, je pense que toi aussi, tu le vois, mais dans ton guidage, les clients que tu as, c'est pas tout du monde de 50 ans. Il y a énormément de jeunes, même dans vingtaine, qui vont aller chercher des services d'un guide ou à l'école aussi pour Caudal. On en voit beaucoup de jeunes. Là.
Oui, effectivement. Mais ceux-là, j'imagine que s'ils aiment ça un peu, puis si on fait notre job comme du monde, ils vont bien revenir.
C'est important. Puis, ouais, c'est tout ça. Est complémentaire.
C'est un beau temps, mais tu sais, je regarde un fly shop, je regarde un peu partout, puis même au niveau de mon Facebook ou Instagram, d'un distributeur de montage de mouches, que ce soit pas nécessairement vous autres ou même des compagnies mondiales, sont comme, on n'a plus de stock. Il y a personne qui a comme anticipé le COVID versus l'engouement que ça a créé pour le montage de mouches. Oui. Mais ça fait que c'est un défi en approvisionnement.
Commercialement, le succès présentement, c'est pas nécessairement d'attirer les clients, c'est juste d'avoir du stock sur les tablettes puis d'avoir un inventaire, tout simplement. Si tu as ça, écoute, à ce temps-ci, là, c'est, ça va y aller tout seul. Là.
Bon, fait que rasez vos chiens, envoyez ça chez Shure.
C'est ça.
Puis ça va être vraiment cool. C'est bon, c'est cool pour Neptune. Au niveau de codage, j'ai moins suivi. J'ai enseigné un petit peu au début de la saison, personnellement, au niveau du SP. J'ai fait des formations au SP au début. J'en ai refait une que j'ai eu beaucoup de plaisir, d'ailleurs, sur la rivière Bonaventure. Tout, elle s'est enseignée beaucoup cet été?
Énormément. Ça a été impressionnant. Ah. Je ne m'attendais pas à avoir le temps tant que ça de donner des cours. Finalement, je me suis comme laissé entraîner par la vague, puis j'ai donné, je pense, au-dessus de 23 journées de cours. Là, c'est quand même énorme. Considérant le temps que j'avais, je trouve ça beaucoup. Mais ça a été une année exceptionnelle. Merci à tous nos clients, sérieusement. C'est la plus grosse année de l'école là, cette année. L'année passée, c'était la plus grosse année, puis là, cette année, on a encore surpassé. Fait que merci à toute la clientèle qui nous ont fait confiance. On a eu beaucoup, beaucoup de commentaires de la part du podcast qui nous incitent à moi puis Luc à continuer justement de faire ce beau projet-là. Je pense qu'on a créé un monstre. Là. Le monde arrive de partout, mais il y en a beaucoup qui arrivent à cause du podcast ou des clients qui découvrent le podcast en venant suivre un cours, fait qu'ils peuvent continuer leur apprentissage.
Vraiment, ou qui veulent perfectionner suite au podcast. En même temps, ce que je trouve vraiment hot, dans mes journées guidées, je l'ai plus vu parce que c'est ça que j'ai fait le plus. Et les gens qui ont réservé via le podcast, ils ont déjà une genre de connexion avec nous dans le sens où ils savent à quoi s'attendre. Généralement, ils se disent « je pense que je vais bien m'entendre avec cette personne-là ». Puis si eux ils se disent ça, ben souvent ça connecte dans les deux sens. Donc ça rend les journées tellement hot. Là, moi, ça me fait capoter bien raide. Puis ça va juste aller en continuant. Puis je pense que Caudal, plusieurs fois dans notre groupe Caudal, sont comme si vous êtes capable de sortir des cours, on va y vendre. Là, dans le sens où tout le monde a donné son niveau maximum de disponibilité.
C'est vraiment la limite qu'on a de la croissance de notre école actuellement, c'est la disponibilité tout simplement. Parce qu'on a tout vendu, en tout cas à 98%, on a tout vendu les dates qu'on a mis sur le site web. Fait que ça, c'est assez exceptionnel.
Oui, ça va être la même affaire l'année prochaine. Je vois ça arriver de loin, ce qui est quand même vraiment, vraiment cool. Tantôt, tu as parlé d'un voyage à Truite de mer qui m'intéresse drôlement.
Oui.
Parce que ça, c'est un poisson qui m'allume, puis tu sais, on s'est parlé vite fait, puis c'était pas tout à fait comme que j'ai connu. Je t'invite à jaser de ça, puis on complétera.
Oui, en fait, on allait pêcher avec Boris Tremblay, qui est le propriétaire de Mouche Expert. Puis on allait tourner une émission. Boris, il a une expertise là, incroyable sur la truite de mer. Là. Il est né dans la rivière quasiment. Depuis qu'il est tout petit, il pêchait. Il partait avec son bicycle, puis il allait pêcher le secteur de truite de mer vraiment au nord de la rivière, de la Sainte-Marguerite. Fait qu'il connaît très, très bien la rivière. Fait que j'ai eu la chance, moi, Ben et Eric, on a eu la chance, en fait, d'aller pêcher cette rivière-là. Puis la semaine avant, c'était un peu catastrophique parce que là, à Rivière, il y avait vraiment, mais vraiment pas d'eau. Puis ça aurait été vraiment triste parce que ça aurait été, la pêche aurait été super difficile. Par contre, on a été bénis, là, mais vraiment bénis. La veille qu'on arrive, il a tombé un déluge, mon gars. Mais vraiment un déluge. La rivière a flotté. Fait qu'on a eu. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, je pensais que ça allait être difficile au moment où la rivière allait être sur le montant quand on est arrivé. Mais
comme
Boris,
au saumon.
Ouais, comme au saumon. Normalement, il y a comme une période qui est plus difficile. Mais la truite de mer, c'est le contraire. Quand la rivière elle monte, c'est vraiment le moment où est-ce que... Quand la rivière vient sale, là, brune, le plus brune que le plus brune possible, là, c'est là que tu as le plus d'action. Là.
C'est bien hot.
Fait que,
as-tu une idée des montaisons qu'il y avait dans la rivière quand tu étais?
Moi, quand j'y étais, il y avait environ 1500 truites qui étaient de montée. C'est une année record dans les dernières années. Par contre, historiquement, il y en a monté beaucoup plus que ça. Là, quand on parlait avec Boris dans son temps, quand il était plus jeune, il y en avait quelque chose comme 3, 4, 5 000 tweets qui montaient. Là. Fait qu'il y avait vraiment de la tweet.
Ça devait être fou raide. Hein?
Écoute, on arrivait, on a débarqué de l'auto le matin, puis on était à peu près à, je te dirais, une centaine de pieds de la rivière, puis on entendait les tweets. Pouclouch, pouclouch, pouclouch.
Hey, ça craigne pas, ça, il y a un peu.
Moi, au début, je ne l'entendais pas. Boris, il dit, ah, je les entends. J'ai écrit, tu me prends pour un cave, là. Tu peux pas entendre les truites d'ici. Je dis, non, 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 il dit, je les entends. Ça va être bon un matin.
Et ça a été bon aussi.
Ça a vraiment été bon. Moi, j'ai pris mon record personnel là, d'une truite d'environ 4 livres et plus. Là. Sérieusement.
Ben, voyons donc.
Ah non, c'est malade. Puis. Boris l'a dit, au début, le matin, la rivière n'était pas super haute. Fait que, ça a commencé quand même tranquillement. Il dit, vous allez voir, mais que la rivière va vraiment brunir, là, puis qu'elle va monter, là, ça va être le party. Éthiquement, on s'est arrêté à un moment donné parce que on fait du catch and release. C'est un secteur qui est en catch and release, c'est obligatoire. Fait qu'à un moment donné, on s'est limité, tout simplement parce qu'on ne voulait pas brûler des poissons pour rien. Puis on avait eu vraiment pour.
Il y avait assez d'images. Là.
Ben oui, ben oui.
Assez de plaisir puis assez d'images. Puis, tu sais, ça reste que peu importe la remise à l'eau, puis on a un pourcentage. Là,
ouais,
il y a un pourcentage qui ne survivent pas. Là.
Exact. Puis ce que tu me disais, Luc, tantôt, là, tu me disais qu'au saumon, quand la rivière monte, ça va faire vraiment bouger les plus gros poissons.
Ouais.
Boris me dit exactement la même chose. Il dit, je ne sais pas ce qui arrive, là, mais les grosses, tu ne les vois jamais. Puis au moment où ce que la rivière brunit puis qu'elle lève, là, c'est juste des grosses que tu pognes. Puis, juste avant que la rivière lève, on prenait quand même des belles truites. Là. C'est des truites d'une livre puis de deux livres, on se plaindra pas. Mais au moment où ce que la rivière a levé, là, on s'est mis à prendre les trophées, les trois livres, quatre livres, quatre livres et demi. Vous pourrez parler à Benoît Farcy qui a échappé, qui a pété le bodling sur une 7 livres, 7-8 livres à peu près.
Fait que, ouais,
j'ai vu Benoît sur le bord des larmes. Oh non, il était triste. Là. C'était pas de la frustration, c'était de la grosse tristesse d'avoir échappé.
Tu vois, quand on était à Petite Cascapédia cet été, moi, je l'ai vu sur le bord. Juste une légère frustration, pas de la tristesse. Mais à 7-8 livres,
il ferait comme un gars d'Achigan.
Il a fait la même affaire au saumon. Je sais pas si je devrais dire ça en podcast. Mais là,
il dit, je sais pas ce que j'ai. Il dit, j'ai une agressivité quand je fais. Je dis, sacrement, je pensais que tu voulais y arracher la tête.
Ça a fait un peu la même affaire au saumon. J'ai rarement vu ça.
C'était vraiment drôle.
Je dormais dans mon hamac, mon farci pêche en sèche. Puis écoute, je l'ai entendu ferrer. Mais ça a fait mal. J'étais dans le hamac, ça a fait mal. J'ai entendu la soif en l'air. J'ai dit, tabarouette, ça, c'est du ferrage, mon homme. Puis
le pire, c'est qu'il écoute le podcast, puis c'est sûr que je vais en entendre parler. Là.
Ah oui, il va dire, mais tabarouette, vous me parlez de ça en podcast. Ah non, mais tu sais, en plus, on le sait qu'il est capable, mais je sais pas, il y avait un manque de ferrage. Là. Peut-être qu'il n'a pas fait de tournoi d'Achigan cette année, puis
ça le manque. Écoute, puis je pense que ça serait intéressant de parler du setup, mais on pêchait avec des soies. Pour avoir du succès, c'était des soies à bout calant.
Okay. Ben calant, genre? Ou...
On avait un 30 pieds de bout calant, genre de Streamer Express ou de Sinkhole de 25, là. Puis ça calait d'un type 3, là, un bon type 3.
OK. Que, tu voulais avoir, dans le fond, c'était autant long parce que tu voulais que ton genre, j'imagine, c'est un genre de streamer, puis tu voulais qu'il reste à la même place dans la colonne d'eau tout le temps.
Oui. Au début, je pêchais avec des sink tip, des polyleaders calants, des bodling calants. J'ai eu un feeling, la truite, des fois, au ferrage, est plus difficile à ferrer, là. Elle prend moins bien la mouche, puis j'avais l'impression qu'on en échappait, puis... Effectivement, Boris m'avait dit qu'il aimait ça, il aimait Il préférait vraiment utiliser des soies calandres qui vont créer vraiment une tension continue entre la mouche puis le pêcheur, contrairement à une soie flottante qui va créer une cassure avec le bas de ligne calant. Là, ça va comme faire un 45 degrés.
Entre ta soie flottante et ton bas de ligne. Puis il trouvait que la tension continue était plus efficace.
Oui, exact. Fait que c'est la raison principale pourquoi on utilise des soies calantes. Puis je pense que ça a donné des super de bons résultats. Là. Fait que c'était vraiment cool, ça a eu.
Quand j'ai comme vu un peu de photos, j'avais l'air de pêcher ça. Moi, j'étais habitué à pêcher dans de la truite de mer à des rivières à faible densité, à des rivières qui ne sont pas en grand écart. Donc, tu sais, moi, c'est vraiment des secteurs très, très, très propices ou des truites qui vont être souvent cachées sous les embarques, là, rarement un peu dans le courant. Puis, mais là, j'imagine que la flotte ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a plus de truites aussi qui font en sorte que là, les habitats privilégiés sont déjà pris puis ils sont plus partout. Je sais pas comment ça marche là-bas, mais vous aviez l'air de prendre des truites genre direct dans le courant.
Il était direct dans le courant, oui. Effectivement, c'est en plein ça. Il y en avait de cachés quand même. Là. Il y avait des certains buissons qui étaient ou des arbres qui surplombaient la rivière. Fait qu'on les pognait là aussi. Mais quand la rivière a monté, il était vraiment en mode run. Il était en mouvement, en fait. Là. Fait qu'ils se sont déplacés dans les têtes de courant. Puis là, on les prenait comme au saumon atlantique. On faisait des dérives. On les pognait sur la swing. Là. Fait que c'était vraiment intéressant.
Ça devait être vraiment, vraiment cool. Là, la truite de mer, tu sais, ça reste une truite, ces stéroïdes-là.
Oh oui, vraiment.
C'est, même au combat, là, tu sais que t'es une truite de mer. C'est pas, ouais. Ça n'a pas rapport avec une truite de lac, mettons. Là.
Exact. C'est vraiment pas facile à pêcher. Là. Comme tu dis, ils sont souvent dans des endroits inaccessibles, les truites, là, mais la rivière est vraiment... Il y a des arbres partout. Là. Fait que c'était le festival du rôle-casse, du spé-casse, avec des soies calantes, des grosses mouches. Fait que je te laisse deviner que c'était pas... C'est ça. C'est le monde qui pense que tu vas en prendre une tonne si tu ne maîtrises pas ton lancer. Là, ça se peut que tu prennes ton deux minutes.
C'est lancé spé-là, ça prend ça. Ouais. Un coup que tu es maîtrisé, tu es tellement content, puis ça prend ça. Puis je dirais, je sais pas c'était quoi vos soies. Là, puis des fois, que ce soit moi ou avec des clients, là, quand on est en full calant là, avec des 30 pieds, des affaires de même... Là, j'ai arrêté de regarder la boucle, là, regarder le résultat. Là. As-tu rendu là-bas? Là? Oui. Ouais. Lâche la boucle avec tes yeux. As-tu rendu là-bas? Oui. Parfait. Très beau lancer. De même que ça va marcher, puis on va pogner du poisson de même. Faut arrêter d'essayer de faire le lancer parfait parce que t'es pas là pour ça. Là.
Non.
C'est pas.
Tu sais, quand vous pêchez avec des soies calanques, n'hésitez pas à faire 2-3 rôle-casse pour remonter la soie à surface avant d'effectuer votre lancer. Ça va aider aussi à lancer des soies calanques.
Aussi penser que dans une rivière qui est en écart comme ça, extrêmement haute et brune, l'espèce de flacotage sur l'eau, là, ça les dérange pas mal moins. Là. On a une autre
effectivement.
On a une autre situation. Ouais. Que ça devait être vraiment, vraiment cool. Si tu vois truite de mer de mon côté, le Bonaventure, j'en ai quand même vu quelques-unes dedans. Ça m'a surpris. J'en ai vu plus que l'année passée. Mais là, c'est sûr que ça peut rien que dépendre des temps que je guidais. Là. Ça ne veut pas dire qu'il y en avait plus dans la rivière. Puis au niveau de la petite Cascapédia, de ce que j'ai vu, de ce qu'ils ont fait les décomptes, c'était désastreux. Là, il n'y avait tellement pas de truites que j'ai décidé tout simplement de ne pas y aller.
OK.
Je savais où on pourrait en avoir. Là. J'en avais vu quelques-unes, mais j'ai décidé que c'était pas le temps. Puis même quand je voyais une truite en descente avec des clients dans la rivière... je mettais ma main devant mes yeux de « je l'ai pas vu, celle-là ». On continue parce que quand tu le sais que la population ne va pas bien, je la laissais là. J'étais comme « OK, regarde, ça, c'est une belle truite, 2 livres plus, ça aurait été le fun de l'essayer, mais on la laisse là. Elle va faire sa job. Là. Il y en a tellement pas beaucoup dans la rivière qu'on continue comme ça. Donc, j'aurais aimé ça en prendre plus. J'aurais aimé ça en... Mais bon, on a eu quelques-unes en capture accidentelle. D'ailleurs, il y a une fois à Bonaventure que j'étais avec Carl Dancause et Marie-Lise Lemelin, puis on pêchait. Hey, c'était drôle, là. On pêche à une fosse, puis tu sais, quand ça va trop bien une journée de pêche, là. Genre trop bien. Fait qu'on pêche, on commence le matin, Carl dit, moi, je vais absolument prendre un saumon en sèche. J'arrive là, je parque le canot, drop l'ancre, puis j'ai vu le saumon à la dernière minute, là. J'ai mis le canot comme pas mal trop proche du saumon. Là. C'était pas. Idéalement, là, j'aurais mis le canot plus loin, mais là, je dis, regarde, on est parqué à côté du saumon, il est à peu près à 10 pieds, là, rendu là, essaye-les. Beau saumon frais de 12 livres, lance la sèche, il monte, attend une minute, on relance la sèche, il apprend, on est à 10 pieds du saumon. C'était beau le spot, là. Pogne le saumon. Parfait. Fait que là, on arrive, il y a une truite assez grosse, là, 1,5 livre qui arrête pas de sauter. Après qu'on a fini le saumon, elle arrête pas de sauter pendant qu'on essaie de prendre le saumon. Fait que là, je dis, oh, je suis tanné, une autre à mouche, on change la mouche, ça marche pas, change la mouche, ça marche pas. Fait que là, on change la mouche encore, essaye de prendre la truite. Là, la truite, elle monte, Marie-Lise, elle le voit pas, elle enlève sa mouche. Elle dit, ah, j'ai un petit bumper crevette, je l'essaye. on n'avait pas vu. Il y avait un grill tout de suite à côté de la truite.
Oh!
À pogner le grill, mais on n'a jamais vu ce grill-là. Donc, là, j'ai dit, c'était un saumon bonus. Là.
Il devait être frais aussi?
Non, même non, pas. Même il était pas. Il avait le goût de petite bumper crevette.
OK, OK.
Puis après ça, on continue juste un peu plus bas. Carl, il lance un autre saumon, pogne un autre saumon à sèche. Là, il est 8h30.
On commence
à 7h. Fait que c'est à peu près la seule truite qu'on a pognée cette année. Là, c'est, on l'a même pas pognée. On a essayé de la prendre, puis Marlise a pris un saumon qu'on n'avait pas vu. Là, j'étais comme, ouais, à matin, ça va bien. Donc, c'est à peu près la seule affaire, mais c'était vraiment cool, cette journée-là. Puis, tu sais, après ça, il y avait quand même 3 saumons de prix. Puis, on n'a pas repris dans la journée, mais c'était assez pareil. Là.
T'es moins stressé pour le reste de la journée après.
Ah, on a eu du fun. Ils sont vraiment le fun. C'était facile, cette journée-là. Tout le monde s'est amusé. Puis, tout était bon. Donc, c'est mes seules patentes de truites de mer, j'en ai peut-être pris une. Je pense que j'en ai pris une à Whetstone en bas au début de la saison, comme le 6 juin.
Whetstone, c'est en haut du pont Green, la fosse Green?
Tu vois, tout de suite en haut de Malin, en fait.
En haut de Malin.
Green, c'est le pont, puis le Malin, la fosse, là, pas le rapide, puis c'est tout de suite en haut, là, ça serait que ça coordonne avec la fin du. Entre le A et le B, mettons. Okay. Tu sais, c'est la dernière du A, puis ça tombe B après. Puis c'est la seule fois que j'ai pêché de l'année, mais bon.
Cool.
Mais ça a été bon, par exemple. Ça a l'air qu'il y a eu du saumon toute l'année, mais pour moi, à Force Gully, c'est vraiment moins intéressant de faire le secteur A. Là, moi, je suis en haut de la rivière, fait que je reste en haut.
Ben oui.
Bon, fait que ça a été ça. Puis pas beaucoup de truites. Après ça, tu as continué vers la truite, vers l'Ontario pour Coast to Coast encore.
Pas pour la truite. Ben oui, en fait, pour le steelhead. Fait que le steelhead, c'est un poisson que j'ai jamais pris. J'ai été souvent pêché. Je pense que je l'ai déjà dit au podcast.
Ouais, t'en prends pas de ça.
Puis j'ai informé le guide le matin. J'ai dit, moi, je n'ai jamais pris. Puis je viens ici de prendre un poisson. Fait que prépare-toi parce que je vais pêcher en sacrement.
Si t'en vois une de 6 pouces, là, je vais l'essayer.
Fait que la tradition se poursuit, Luc. J'ai sérieusement. On n'a pas vu une tonne de poissons. On pêchait en drift boat. Ça a été ma première expérience en drift boat. Fait que c'était vraiment cool. Je n'avais jamais vécu ça avant.
Comment t'as trouvé ça? C'était cool? T'as-tu de la place pour pêcher?
Ouais, t'as vraiment beaucoup de place pour pêcher. Là. Ça me fait penser à un canot. C'est la bonne aventure, là, en fait.
Puis là, ça, c'est deux pêcheurs, un pêcheur à chaque bout puis le guide au centre.
Oui, exactement. T'es en plein ça. Excuse-moi, je réfléchissais au setup, mais effectivement, c'est ça. Fait que c'était vraiment cool. Écoute, t'as un ancre. Fait que quand t'arrives à la fosse, il place l'ancre exactement à la tête de la fosse, selon les setups. Mais tu sais, des fois, il nous faisait débarquer du drift boat si la fosse se pêchait mieux à gué. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis ma surprise, en fait, c'est qu'il nous faisait... Moi, je pensais pêcher avec des indicateurs de touche ou des œufs ou des egg patterns. Finalement, on pêchait ça sur la swing comme au saumon atlantique. Fait que j'ai vraiment aimé ça.
Les mouches?
Ben les mouches. Moi, j'avais laissé mes mouches à saumon atlantique chez nous, là. Fait que là, il me sort son coffre. Je vois un Undertaker. Je vois une Blue Charm Spee. Puis bon, il y avait une coupe d'intruder dans la gang, mais j'ai dit, fuck, finalement, j'aurais dû amener mon coffre. Il dit, ouais, il dit, moi, je suis un gars qui pêche, un guide qui pêche de cette façon-là. Puis c'était pas un fan vraiment des. Il pêche avec des soies calantes, mais c'était pas un fan des mouches qui étaient bien lestées. Fait que des fois, un petit tube en brass, là, mais souvent, c'était vraiment un hameçon. Puis pas de lead là, significatif sur la mouche. Fait que,
je trouve tellement que ça pêche mieux une soie calante qu'une mouche plombée. Là.
Ah ben oui, ça se lance bien. Sinon, c'est,
ça se lance mieux, ça dérive mieux. Idéalement, s'il faut que tu ailles plus cru, tu veux mettre les deux. Là, mais moi, si j'ai le choix entre les deux, là, c'est la soie qui devient calante et non la mouche.
Absolument. Écoute, on n'a pas vu une tonne de poissons. On est arrivé à la fin dans une très, très bonne fosse. Qui savait qu'il allait possiblement en avoir? Effectivement, à un moment donné, on pêchait, puis j'ai vu un saumon roulé, un steelhead roulé vraiment sur le bord, l'autre côté de la rivière. Fait que j'ai collé la shot, on a déplacé le drift boat, j'ai fait à peu près 4 à 5 lancers, j'en ai eu un sur la ligne. Puis c'est ça. Fait que là, après deux, ça a peut-être. Puis là, c'est ça. Là la désolation. On l'a senti dans ma voix, à vous.
Ouais.
Fait que, écoute, je l'ai tenu à peu près 5 minutes à la ligne. Il a fait un premier saut sans problème, puis le deuxième saut, après 5 secondes, malheureusement, il a comme décidé qu'il clenchait vers l'aval de la rivière, puis là, je l'ai échappé. Puis c'est ça, c'est similaire à la déception que Benoît Farcy a eue quand il a pété son bas de ligne sur la grosse truite. Là. J'avais le goût de brailler, parce que ça fait tellement d'années que j'essaie de prendre un stylet, puis écoute, j'étais vraiment proche.
Le pire, c'est que tu vas arriver à quelque part à un moment donné puis tu vas juste en prendre plein. Là. Ça va débloquer. Là.
Ben, je l'ai réservé c'est... 2 jours l'année prochaine. J'y retourne.
Ben, tu sais, comme là, tu as eu une journée avec un, je pense que idéalement, si on peut, là, un guide 2 jours, ça le fait.
Ouais.
Ça te permet d'avoir une journée un peu plus. Ça te permet, tu sais, des fois, on est pas. C'est de la pêche, là, on connaît pas les conditions. Fait que quand tu prends 2 jours, ben, tu dis OK, aujourd'hui, ça m'a bien été, ben, tu as des bonnes chances en 2 jours de créer quelque chose.
Là. Ouais. Fait que je retourne à la même place. Fait que ça va être la Grand River. Fait que j'ai bien hâte.
Ah, ça a l'air cool, j'en ai entendu parler. Puis j'ai vu des. Justement, cet ancêtre, là, je suis sur Fishing TV, là, puis j'écoute un peu trop de vidéos de pêche. Mm. Puis. Je vois il y a beaucoup de pêche en drift, là, comme toi, il pêchait à l'ancre, là, mais je vois aussi que quand il pêche des petites imitations d'insectes naturels, puis tout, le guide, il fait juste timer le bateau à la même vitesse que le courant, puis tu laisses dériver ta mouche. Comme t'as juste à lancer, puis tu laisses dériver ta mouche. Ouais, lui, il sert des rames, c'est le drift, pour te mettre à la vitesse de dérive naturelle.
OK.
Là, le monde, il lance, mettons, des nymphes, des affaires de même, puis il les laisse, ça dérive en même temps que le bateau.
C'est comme du center pin. Mais avec un
comme
bateau.
Du center pin ou comme du ninfing, mais au lieu d'aller au bout de ta canne, tu peux le faire sur 35 pieds de long. C'est ben oui, c'est fou. Ben. C'est vraiment. J'ai pensé, justement, hier, j'écoutais une vidéo, c'est un peu ça qu'il faisait sur la Bow River, où est-ce que Farcy est allé avec Coast to Coast, si je ne me trompe pas.
Ouais.
La première dans la saison 1. D'ailleurs, la saison 1 de ça, c'est-tu sur votre chaîne YouTube? C'est-tu sur votre site de Shore?
C'est YouTube, oui.
C'est YouTube, puis on a écrit YouTube. Coast. Coast to coast.
On the fly.
On the fly, puis là, on voit Benoît Farcy pogner des poissons.
Exact.
Là, c'est quand même cool, pour moi, que les gens puissent voir Benoît pogner des poissons. Là, il manquait tout. Là,
je vous rassure, il y a d'autres personnes que Benoît, sinon ça serait plate un peu.
Bon, Ben, on t'aime magane aujourd'hui.
On veut juste vérifier s'il l'écoute, le podcast.
Ouais, c'est ça. Il nous écrit souvent que c'est bon. Là, il n'aura pas le choix de nous dire si. On va le savoir. Là, s'il dit, hey, c'était vraiment bon, les gars, on va dire, t'étais un qui est croissant. Puis.
Non, ça a été finalement, pour conclure ça, c'était vraiment cool. Puis écoute, quand le stylet a mordu, ça m'a fait le même feeling que quand un saumon atlantique prend une noyée. Là, ça a tiré sa soie vraiment assez violemment. Là, fait que c'était, écoute, j'en ai eu quand même pour ma journée. Là, c'était vraiment le fun. Mais là, la prochaine sortie, il faut que j'en pogne un.
Ouais, considérant le fait que tu étais payé pour aller pêcher ta nuit pour ton argent certain.
Effectivement.
Puis.
Le gars, il se plaint.
Ouais, c'est ça, arrête de te plaindre. T'es payé pour aller à la pêche.
Princesse.
Ça le fait. Sinon, t'as-tu fait de la chiguë un peu dans ta région?
J'ai fait de la chiguë. Je n'ai pas fait une tonne, mais j'ai été à la chiguë. J'ai pas eu une saison exceptionnelle parce que j'ai pas vraiment été à des endroits où est-ce que je pouvais prendre des trophées, mais. Mais oui, j'ai fait mes petits spots comme à chaque saison. Fait que j'ai pas grand-chose à dire sur le Chigan cette année.
Ouais, des fois, tu en faisais plus. Hein?
Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, j'ai manqué de temps un peu. Fait que je suis quand même bien content, mais là, j'ai de quoi d'excitant qui s'en vient.
C'est quoi?
Ben, je m'en vais pêcher à quelque part.
Encore?
Dans le monde.
Des maringouins?
Ouais, des maringouins au Kenya.
Des maringouins au Kenya? Avec bien toutes les maladies que tu vas ramener. Mais faut vraiment que j'arrête de faire des commentaires pleins de préjugés de même à la radio. Mais bon, tu t'en vas au Kenya, j'imagine que c'est en lien avec Neptune.
Ouais, en fait, c'est ça. On s'en va visiter la manufacture, faire de la formation pour les nouvelles mouches qui s'en viennent. Puis on a du temps qu'à être là, on va en profiter. Fait qu'on s'est booké 2 jours dans le parc national d'Aberdare. Fait que on va pêcher. Écoute, ça va être une espèce qui est super exotique. De la truite.
Non, mais tu vois, quand tu m'as dit ça que tu allais pêcher à la truite au Kenya, il y a de la truite au Kenya.
Ah, tout le monde est surpris, là, mais c'est de la truite qui a été ensemencée, si je ne me trompe pas, par les Britanniques à l'époque.
Ah, c'était bien dans la mode, hein?
Ouais, truite brune, truite arc-en-ciel qu'on s'en va pêcher. Puis écoute, c'est malade là, parce qu'on va coucher dans le parc national le samedi la semaine prochaine en fait, puis le matin il paraît qu'il y a des éléphants qui viennent devant ton chalet là. Fait que, ouais,
check bien ça mec, il y a une anaconda de 22 pieds en avant de ta tente.
Ouais, fait que c'est ça.
Non, je viens, j'irais n'importe quand pour vrai. Mais c'est sûr que ça doit être vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, s'il y a de la truite, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des montagnes, quelque chose pour avoir de l'eau relativement assez froide. Là. Ouais. Pas être le désert.
C'est ça, tu as deviné le setup. En fait, on ne pêchera pas des grosses rivières, ça va être des ruisseaux, si je pourrais dire. Il y a certains endroits que ça me fait penser un peu à Nouvelle-Zélande. J'ai pas été, mais on l'a tout vu dans les vidéos, des rivières en Nouvelle-Zélande. Là. Mais c'est des petites rivières, des fois, qui coulent dans des champs. Puis écoute, il paraît que, tu sais, je te cacherai pas que la pression de pêche est pas énorme là, au Kenya. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais il paraît que c'est assez cool. Là.
Ben, allez-vous filmer aussi pour Coast to Coast là-dedans?
On fera pas un film officiel, c'est sûr qu'on va aller prendre des images. Mais écoute, si tu veux, on pourrait peut-être en parler au prochain podcast, là, faire un petit segment sur c'était quoi l'expérience au Kenya, comme quelle mouche qu'on utilisait. Tu sais, des fois, ça peut être bien différent du Québec. Là.
Fait que... Ben, on pourrait bien faire ça parce que, puis en plus, pendant 7 ans, moi, je vais être au Bonefish à Cuba.
Oh! Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça.
C'est les mêmes dates.
Wow!
Fait que c'est. Moi, j'étais au Bonefish à Cuba, toi, t'es à Kenya, à Truite.
On va comparer les deux. On va...
Ouais, on fera.
Quel poisson
de...
qui tire le plus?
Quelle fois? Ben, c'est pas nécessairement. Là. C'est toi, tu me parleras de tes anacondas, puis moi, je vais te parler de tout le vent qui m'a empêché de prendre 0 poisson. Ça va être ça qu'on parlera. C'est super. Au niveau du podcast, là, il va y avoir plein d'affaires cool qui s'en viennent, dont ça, qui risque d'être vraiment hot. Puis après ça, on prévoit plein d'autres invités.
Ouais.
On a d'autres podcasts qui sont à s'en venir, que ce soit saumon, toutes sortes. Pêche dans le sud aussi qu'on voulait aborder. Mm-hmm. On a plein de projets, mais qui n'arrêtent pas d'être contre... Ben, pas contre Carré. Dans le fond, qui sont juste... On pense qu'on va faire ça. Finalement, il y a plein d'affaires qui nous, ouais. pas qui nous empêchent ou qui nous font dévier. Là. Fait que je vous en dirai pas trop d'avance. Mais que ça soit enregistré, ça sortira. Mais chose certaine, on en fait tout l'hiver et de là, ça recommence.
Oui, absolument.
Ça recommence pour vrai comme tout le temps.
On va être assidus l'année prochaine. C'est toujours l'été qui est plus problématique parce qu'on aime pêcher puis qu'on a beaucoup de choses à faire pendant l'été. L'été est courte, fait que c'est probablement qu'on va en enregistrer beaucoup cet hiver. Comme ça, on va en avoir en backup pour l'hiver, pour l'été. Fait que d'ici là, dans la prochaine année, il ne devrait plus avoir d'interruption là, comme on a eu pendant 2 mois. Fait qu'on est bien positif pour ce qui s'en vient.
Ben, c'est parfait, ça, parce que de toute façon, plus que nos projets développent, moins qu'on a de temps. Fait qu'aussi bien d'en avoir pour l'été, parce qu'on n'en enregistrera jamais l'été.
Exactement.
Bon, c'était bien cool, puis au prochain podcast, mon Raph.
Yes, sir.